Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
Les journées se suivent et ne se ressemblent pas sur la scène de guerre, le théâtre de guerre de la Russie et de l'Ukraine. Et l'armée russe vient de subir un revers humiliant. On en discute avec Guillaume Lavoie, qui est membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Salut Guillaume.
Bonjour Patrick.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel camouflet David a-t-il infligé à Goliath?
Ben, c'est vraiment l'idée d'un camouflet, là. Alors, c'est pas quelque chose qui transforme le conflit, c'est juste quelque chose qui va montrer à quel point peut-être l'armée russe est mal organisée. Alors, tout ça se passe en Crimée. Alors, la Crimée, c'est cette zone longtemps désirée par les empereurs russes depuis 1000 ans. Pierre le Grand la voulait, Catherine la Grande la voulait, et la Russie l'a annexée illégalement en 2014. Et en Crimée, il y a des bases militaires russes très importantes, notamment une des plus importantes bases de la navale, mais une base de l'armée de l'air. Et là, il est arrivé des explosions et 8 avions ont été détruits. Alors, les avions là, se détaillent en dizaines de millions de dollars pièce. Alors, c'est une perte financière énorme. Et pourquoi est-ce que c'est une humiliation passablement gênante? Ben d'abord, on est très loin de la ligne de front ukrainienne, là. Ça veut dire que même en Crimée, loin de la ligne de front, les Ukrainiens étaient capables de réussir quelque chose. Mais ce qui est particulièrement amusant, c'est que l'Ukraine prend le crédit sans donner trop de détails, dit pas trop comment c'est arrivé. On imagine que c'est pas pour exposer la collaboration des Américains, par exemple avec des images satellites ou autres. On ne sait pas exactement comment ils ont fait leur coup, mais ils ont réussi une opération de guérilla. Et ça vient montrer un peu l'espèce de caractère non soumis des Ukrainiens, le caractère capable d'attaquer pas juste les lignes russes, mais à l'intérieur d'une base militaire et des pertes importantes. Et c'était très amusant de voir la réponse des Russes. Alors, la réponse des Russes s'est faite en 2 phases. En premier, c'est il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a pas eu de dommages. Alors, il y a pas de problème ici. Là, comme le monde entier a vu les images satellites où on voit clairement le avant-après, puis des avions en morceaux, mais là, finalement, ce serait que des munitions, un dépôt de munitions aurait explosé. Et là, on peut se poser la question, qui organise les munitions? Une armée moderne, professionnelle, compétente, t'arrive pas ce genre d'accident-là, là. Alors, soit l'armée est incompétente, soit elle est mal gérée, c'est probablement les deux, et ça pose toutes sortes de questions sur, en plus de ça, comment il est possible qu'une base militaire soit capable de subir de telles attaques. Alors, c'est clair qu'on pourrait imaginer que c'est particulièrement gênant pour Vladimir Poutine et que dans l'armée russe, là, il doit y avoir beaucoup de commandants qui doivent se trouver là. Est-ce qu'il y a de la place entre le mur et la tapisserie pour me cacher?
Ouais, parce que sinon il va peut-être avoir de la place en Sibérie pour aller faire un petit tour. De quel type de réponse peut-on s'attendre justement de la part de Moscou?
Il va sûrement y en avoir d'autres au plan militaire, par exemple les fameux missiles hypersoniques que Moscou pourrait envoyer. Ça a été la procédure normale jusqu'à maintenant, mais ce que l'on voit aussi, c'est des procès grand public qui sont en train de se préparer. Et là, la technique russe, c'est de, vous allez voir ça, là, c'est une mise en scène gigantesque. On prend un vieux théâtre et là, on l'organise comme un lieu de procès, un genre de Nuremberg pour les menteurs, là. Une grande mise en scène typique des régimes communistes. Et là, on va construire des cages dans lesquelles les accusés ukrainiens vont être. Et là, il y aura un simulacre de procès où on va probablement accuser les soldats ukrainiens de toutes les crimes et les atrocités qui auraient été commises dans le Donbass. Les mêmes atrocités de crimes de guerre que l'on a attribuées à la Russie. Et là, la Russie utiliserait ça pour montrer que ce n'est pas elle, mais c'est bien les rebelles ukrainiens qui auraient fait tout ça. Alors ça, c'est une des répliques que l'on voit en train de se mettre en œuvre.
Excuse-moi Guillaume, est-ce que on sait, tu sais, bon, évidemment il y a beaucoup de propagande en Russie. Là, il commence à avoir ça commence à être dur quand même le conflit. Tu disais cette semaine là, on parle de 70 à 80 000 victimes les estimations chez les Russes quand on compte les morts et les blessés. Donc ça fait potentiellement beaucoup de familles touchées en Russie. Il doit quand même commencer à avoir des gens qui le savent que ça va pas bien. Il y a de la contestation, il y a des gens qui sont emprisonnés. Est-ce que ça tient encore la propagande ou bien il commence à avoir des fissures un peu plus?
Il y avait un grand auteur et contestataire russe, Alexandre Solzhenitsyn, qui disait « Ils nous mentent, nous savons qu'ils nous mentent, ils savent que nous savons qu'ils nous mentent et ils nous mentent quand même. » Alors, je pense, on pourrait présumer que, d'abord, il n'y a pas de médias qui rapportent la chose comme nous on le fait en Russie. Là, tout ça est organisé avec le gars des vues. Il y a une opération spéciale en Ukraine, mais on ne leur dit pas que c'est parce que l'armée russe était mal organisée que leurs fils et leurs frères sont morts. C'est parce que c'est les Ukrainiens qui sont si terribles. Alors, il y a un bout de la propagande qui est sans doute magnifiquement efficace, puis il y a un autre bout, si jamais je pense que c'est la faute de Vladimir Poutine, à qui puis-je le dire? Et à qui puis-je le dire sans qu'il y ait des conséquences pour moi? Il n'y a pas de parti d'opposition là, qui a voix au chapitre en Russie. Il n'y a pas de médias d'opposition qui voix au chapitre. Sinon, vous allez aller rejoindre les autres généraux là, humiliés en Sibérie. Ouais. Alors, il n'y a pas de place pour... C'est un régime totalitaire. Il n'y a pas de place pour ça. Ouais. Et pendant ce temps-là, ben, Vladimir Poutine ne se gêne pas. Ce que l'on voit maintenant, c'est que on parlait de cette fameuse Crimée. Vous savez, la base, la centrale nucléaire dont on parlait précédemment, là où les Russes s'étaient installés une base militaire en disant « Moi, je peux vous attaquer, mais vous ne pouvez pas répliquer parce que c'est une centrale nucléaire. Mm-hmm. Si arrivait un accident, ce serait très grave. » C'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. À elle toute seule, elle alimente un cinquième de l'Ukraine, qui est le plus grand pays d'Europe. Bien là, les Russes essaient de faire, parce qu'elle est tout juste au nord de la Crimée, alors ils sont littéralement en train de couper les fils qui s'en vont vers l'Ukraine pour en réinstaller d'autres, pour envoyer l'énergie électrique de cette centrale-là vers la Crimée. Un peu comme, puis là, évidemment, là, c'est un vue de l'esprit, là, l'Ontario attaquerait le Québec et irait couper les fils qui amèneraient l'énergie à Montréal pour se faire des fils qui vont en Ontario. Alors, vous voyez un peu où est-ce qu'on est rendu. Et là, les gens responsables de la centrale nucléaire disent, mais c'est quand même très dangereux tout ça parce que on peut pas débrancher une centrale nucléaire comme ça. Il faut que ce soit toujours en fonction, notamment pour les systèmes de refroidissement et autres. Alors, on arrête absolument à rien. Mais quand c'est rendu qu'on va saisir les centrales nucléaires pour envoyer de l'énergie vers la Crimée, donc vers la Russie, ça montre à quel point ici le but, c'est d'empêcher l'Ukraine de pouvoir fonctionner comme un pays moderne. Mmh. On va l'assoiffer de ses ports, de ses ressources naturelles, de ses céréales et de son énergie.
Une chose est sûre, là, si on s'en allait vers une victoire facile, on ferait pas ça. Hein? C'est manifestement les Russes sont c'est plus difficile que ce qu'ils pensaient. Hey, Guillaume, j'aimerais ça t'entendre en terminant sur il y a cette nouvelle qui est tombée, le procureur général, le ministre de la Justice des États-Unis, autrement dit Merrick Garland, qui a condamné les attaques contre le FBI.
C'est absolument surréel, parce que là, il faut savoir que dans le monde, je dirais pas républicain, mais sur la planète Trump, on est rendu à attaquer le FBI, à dire qu'il faudrait le définancer, que ça prendrait une guerre civile. C'est comme si le sens du mot conservateur avait été oublié par les tenants du Parti républicain. Conservatisme, c'est la foi dans les institutions et dans la loi et l'ordre. Ça a été complètement oublié. On est très véritablement à tout. Et peut-être que ce que les Trumpistes oublient, c'est que le patron du FBI a été nommé par Trump. Alors, imaginez. Alors, on est prêt à tous les mensonges, et tant qu'il y aura des gens pour les croire, c'est une recette qui fonctionne. Mais à date, je reviens à cette idée-là, Boris Johnson n'a pas été mis à la porte par l'opposition libérale. Il a été mis à la porte lorsque des conservateurs ont dit « ça va faire ». Alors, on attend de voir ça au sein du Parti républicain.
Ouais, et peut-être qu'on va attendre encore un certain temps. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Roldan-Durand, merci beaucoup. À bientôt.
Ton plaisir.